Bonjour, je suis Camille Faure et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Cazoo, le premier podcast 100% dédié aux acteurs de l'économie circulaire. Ici, on met en lumière des initiatives qui proposent une nouvelle façon de consommer, plus vertueuse pour la planète et pour la société. Et Cazoo, c'est quoi? C'est un service de location d'appareils reconditionnés sur un modèle 100% circulaire. Si ça vous intrigue, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à notre site heykazoo.com. heykazoo.com. Allez-y, c'est parti. Bonjour Karima.
Bonjour.
Écoute, merci d'avoir accepté mon invitation. On va parler aujourd'hui d'un sujet qui a un fort impact environnemental. Ce sont les déchets du BTP. Voilà, on ne le sait pas forcément, mais c'est un des secteurs, voire le secteur qui a le plus fort impact environnemental dans le monde, donc enfin en tout cas en France, tu nous en diras plus juste après. Et vous avez créé avec tes associés une société qui s'appelle Cycle Zéro et qui revalorise des déchets qui sont issus de chantiers à destination des particuliers. J'espère l'avoir bien résumé. Alors après, dit comme ça, je suis pas sûre que ce soit forcément très très clair pour tout le monde, donc je te propose que ce qu'on fasse, c'est que je te donne tout de suite la parole pour que tu te présentes déjà toi et que tu nous présentes ce qu'est Cycle Zéro.
D'accord, très bien. Bah écoute, moi je suis Karima Lepsir. De base, je suis architecte de formation. J'ai travaillé dans des grandes entreprises, des agences d'architecture françaises et spécifiquement en direction de travaux, donc sur les chantiers. J'ai travaillé notamment sur de gros chantiers comme les Galeries Lafayette sur les Champs-Élysées ou bien sur la construction de la Tour Alto à la Défense. Dernièrement, j'ai travaillé sur le siège social anciennement du journal Le Monde, aujourd'hui BPRI, dans le 13e arrondissement. Donc voilà, j'ai travaillé sur des grosses opérations, des réhabilitations assez lourdes. Et en fait, je me suis également formée à l'économie circulaire parce que j'avais ce côté vraiment de recherche de sens, hein, dans mon métier, parce que sur les chantiers, comme tu l'as si bien dit dans ton introduction, c'est qu'il y a énormément de gaspillage. Et moi, j'étais en direct, hein, donc j'étais en permanence sur les chantiers et je voyais ce qui se passait et je voyais tous les déchets considérés comme des déchets, mais que moi, je considérais comme des gisements, partir à la benne. Donc, qui dit benne dit déchetterie et qui dit déchetterie dit enfouissement, incinération et perte de ces gisements. Voilà. Et donc, je me suis entourée de deux collègues. Donc, le premier, c'est Selim Zouaoui, qui est également architecte, en direction de travaux également. Il a fait aussi beaucoup de conception en BIM. Et puis, c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur le chantier en tant qu'ouvrier, parce qu'il vient d'une famille du BTP, donc il connaît très bien le secteur. Et puis aussi d'un autre collègue qui s'appelle Jules Loubarès, qui lui est designer UX/UI et qui est spécialisé dans les technologies. Et donc, c'est lui un peu le pape de l'application. Cette application qui a été créée par nous, hein. Le code est à nous, on a créé en dur. On n'a pas pris un support. Voilà, c'est nos équipes de développeurs en interne qui l'ont créé. Il est également professeur, hein, dans des écoles comme les Gobelins à Paris. Donc, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la transmission. Et tous les trois, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner du sens un peu à nos métiers? Et c'est comme ça qu'on est allé sur les chantiers, à la rencontre d'ouvriers, hein, du BTP, de chefs de chantier. Et bah, on s'est vite rendu compte que bah, le gaspillage qu'on avait constaté, nous, en tant que professionnels, bah, était encore présent, hein, sur les chantiers. On s'est rendu compte que c'était un système qui était perdant pour l'entreprise, parce que l'entreprise du BTP, elle paye à l'achat des matériaux, mais elle paye aussi sa mise en benne. Et puis, pour mettre fin à ce cycle, ben, clairement, nous, on a décidé de proposer une solution qui n'était pas limitée par les questions des normes sur les chantiers. Et cette solution, c'est Cycle Zéro, parce que Cycle Zéro, ben, c'est une application qui permet aux particuliers de récupérer gratuitement des matériaux de chantier. Et donc, ces particuliers, hein, représentent 1 million de chantiers par an en France. Donc, on s'est dit que c'était une cible qui n'avait pas encore été trouvée. Et c'est pour ça qu'on a créé, bah, le réemploi social. C'est un réemploi de matériaux de chantier, mais destiné aux particuliers, sous forme de dons. Voilà un peu comment tout ça est né.
Écoute, ça te donne une bonne intro sur la genèse et sur ce qui vous a motivé à lancer l'appli. Est-ce que pour rendre tout ça un peu plus concret pour des gens qui nous écouteraient et qui ne sont pas spécifiquement dans le métier, tu peux nous donner un exemple concret sur un chantier de type de déchets, donc qui sans vous seraient des déchets et qui du coup deviennent, comme tu le disais si bien, un gisement, ou en tout cas des matériaux réemployables. Mais du coup, voilà, qu'on se rende compte de c'est, enfin, tu vois, parce que quand on le décrit comme ça, on se dit, mais attends, c'est quoi? C'est des briques un peu cassées. voilà, que tu un peu nous donnes un exemple de à quoi ça ressemble, en fait. Comment est-ce que finalement vous identifiez ces gisements, comment vous convainquez l'entreprise, c'est-à-dire, enfin, voilà, qui est-ce que vous avez à convaincre de vous les mettre de côté, et ensuite, bah, comment est-ce que les particuliers ont connaissance de ces matériaux qu'ils peuvent venir récupérer gratuitement?
Bah alors déjà, je vais t'expliquer un peu comment on fonctionne, et puis après, je te donnerai un exemple type, ou même plusieurs. Bah, tout d'abord, nous, en fait, on est en relation avec une maîtrise d'ouvrage ou une entreprise du BTP qui fait appel à nous, hein, à notre service, pour réduire ses déchets. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se déplace sur le chantier. Donc, on participe à une réunion de chantier pour définir un peu notre zone d'action sur le chantier. On définit une zone de stockage temporaire en lien avec l'entreprise ou la maîtrise d'ouvrage. Et bien sûr, sous l'ordonnancement du CSPS, qui est la personne, en fait, sur le chantier qui va gérer tout ce qui est sécurité. Donc, c'est pour ça que nous, on met en place tout un système sécuritaire qui permet d'amener des particuliers sur le chantier. Et ensuite, en fait, on sélectionne les matériaux réemployables avec l'entreprise. Souvent, on se base sur un diagnostic ressource qui a déjà été établi en amont. Donc, le diagnostic ressource, en fait, c'est au début, par exemple, d'un chantier, on va faire un curage. Un curage, c'est comme, pour vulgariser un peu, c'est on déshabille le bâtiment. Voilà. Et quand on va faire ça, on va identifier tous les matériaux qui sont susceptibles d'être réemployables. Et donc, on se base sur ce diagnostic-là.
Ça, c'est fait dans tous les cas, ce diagnostic, ou c'est le fait que vous soyez vous présent qui... Enfin, il faut toujours le faire, quoi, quand il y a une réhabilitation.
Voilà, il faut toujours le faire. Et ce diagnostic ressource, soit il est fait, et parfois, il y a des fois où c'est pas fait. Et donc, bah, nous, on propose de le faire, bien sûr. Mais quand il est fait, on se base sur ce diagnostic ressource. Nous, vu qu'on a une solution assez innovante, on peut alimenter ce diagnostic ressource, parce que parfois, certains matériaux sont considérés comme pas réemployables. Nous, on sait que c'est possible, donc on le met à jour. Parce que c'est pas forcément su de tous que tout est réemployable sur un chantier à partir du moment où c'est du don et que c'est qualitatif et que c'est pas abîmé, que c'est pas cassé, que c'est fonctionnel, c'est réemployable. Un particulier viendra le récupérer. Nous, on le sait parce qu'on est convaincus et on a pratiqué la démarche, on sait que ça fonctionne. Du coup, on alimente ce diagnostic-là. Et puis ensuite, une fois que c'est fait, les matériaux sont référencés. Hein, on prend en photo les matériaux. Ils sont référencés par un membre de l'équipe, donc un optimisateur déchets, sur l'application. La photo est mise sur l'application sous forme d'annonce. À partir de ce moment-là, les particuliers qui sont situés à proximité, dans un rayon de 100 km, peuvent réserver le matériau. C'est pour ça qu'on a choisi le modèle de l'application. C'est pour la géolocalisation, parce qu'on estime que cette action, elle est avant tout locale. On ne veut pas que toute la France se déplace et consomme pour venir récupérer un matériau, par exemple, à Paris, alors qu'ils viennent de Marseille ou de Lyon. Donc, on a misé sur la géolocalisation. Et puis, donc une fois réservé, après la validation de nos équipes, les particuliers sont accueillis sur le chantier par un membre de Cycle Zéro. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on gère la dépose des matériaux sur l'application, puis on gère les particuliers derrière. Et puis, il n'y a pas de problématique de stockage hein, pour l'entreprise. Enfin, ils nous délèguent complètement la partie réemploi sur le chantier. À partir de là, hein, une fois que le particulier a réservé, il est venu récupérer les matériaux qu'il a réservés, il y a un bon de session qui est automatiquement généré pour l'entreprise, hein, pour la traçabilité. Et on fait un bilan de coûts carbone évités qu'on donne soit à l'entreprise, soit au maître d'ouvrage, suivant le client. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe pour le fonctionnement. Hein. Et puis, par rapport à nos clients, comme je disais, ça dépend. Ça peut être des entreprises du BTP, hein, des grosses entreprises. Ça peut être FH, ça peut être Bouygues Construction. Ça peut être Léon Gross, ça peut être Fayat. C'est des grosses entreprises du BTP. Et ça peut être aussi des maîtrises d'ouvrage. Donc, les maîtrises d'ouvrage, ça peut être un bailleur social, comme la RIVP avec qui on travaille. Ça peut être une maîtrise d'ouvrage privée. Voilà, ça peut être soit public, soit privé. Et okay. Puis, pour un exemple un peu plus concret, là, on a travaillé, par exemple, cet été sur un chantier avec l'entreprise Fayat, dont je te parlais juste avant, qui est une entreprise assez conséquente, hein, du milieu du BTP, et qui a une filiale qui s'appelle Darras et Juanin, avec laquelle on a réalisé une rénovation énergétique, 11 passages de Ménilmontant dans le 20e. Et là, en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une rénovation énergétique, hein, d'habitat social. Et il y avait une surface de 1200 m². Et on avait beaucoup de fenêtres à réemployer. Et donc là, c'est des fenêtres double vitrage. C'est un gisement qui est recherché, la fenêtre double vitrage. Je ne te cache pas qu'en 2 minutes, c'est réservé sur l'application. Et là, donc, on avait quand même 20 m³ à réemployer de déchets, donc de gisements. Et ils sont assez uniques, ces matériaux, parce qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui n'ont pas de double vitrage, hein, qui sont en simple vitrage. On ne s'en rend pas compte, mais il y a énormément de personnes qui sont encore en simple vitrage. Donc, sur cette opération-là, nous, par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une économie à l'entreprise de 4000 euros, parce que sinon, elle aurait payé la benne. Et nous, on est beaucoup moins cher qu'une benne. Hein. On n'a pas de rotation de benne à payer, on n'a pas de lieu de stockage, on n'a pas de système industriel, d'incinération, etc. Donc forcément, on est moins cher. On a économisé 20 mètres cubes de déchets. On a 100% de taux de réemploi, hein, sur cette opération. Et en CO2, hein, économiser, c'est 10 000 kg de CO2. Donc bon, ça ne parle pas à tout le monde, mais pour te donner un exemple, en déchets ménagers, par exemple, ça fait 26 000 kg d'ordures ménagères. Donc c'est beaucoup. Et ça fait 75 millions de litres d'eau du robinet économisés. Donc ça, c'est une toute petite opération. 1200 m², ça reste une toute petite opération. Et là, on est sur une opération donc, de fenêtres double vitrage. Hein. Donc c'est des fenêtres qui sont en très bon état et qui sont encore tout à fait fonctionnelles. Et ben, dans cette opération, c'est aussi 100 familles, hein, qui ont pu être aidées et qui ont pu passer de simple vitrage à double vitrage. Donc ça, c'est une opération, par exemple, où le gisement de la fenêtre était le gisement principal. Mais on en a d'autres, on a plein d'exemples possibles. On a eu également, par exemple, un des derniers chantiers qu'on a fait avec l'entreprise Dempsey. Pareil, hein, sur une rénovation avec l'entreprise Dempsey, qui est une entreprise de démolition. C'est une filiale d'Eiffage. On était avec le bailleur social RIVP sur cette opération. On a fait réemployer 350 dalles de béton, des dalles extérieures, tu sais, qu'on peut trouver dans des allées, des dalles en béton gravillonné. Et ben là, on a fait une économie à l'entreprise de 600 euros. Donc, c'est quand même assez important. Donc, c'est 20 000 kg de CO2 économisés. C'est une action sociale aussi, parce que tu as 10 familles de l'autre côté qui ont pu bénéficier de ces matériaux-là. Donc, c'est beaucoup. C'est des exemples là sur la fenêtre, sur les dalles en béton. C'est des exemples parmi tant d'autres, puisque la semaine dernière, on a réemployé 300 radiateurs neufs. Là, c'était du surplus. C'était même pas voué à la benne directement, parce que, en fait, c'était une erreur de commande. Et l'entreprise, elle s'est retrouvée avec 300 radiateurs neufs qu'elle devait stocker dans ses lieux de stockage. Malheureusement, on connaît tous les problématiques de stockage aujourd'hui des entreprises. Elles n'ont pas des lieux de stockage immenses. Et donc, elle devait faire partir ces radiateurs-là. Donc, c'était soit la benne, soit cycle zéro. Et au pied levé, hein, la semaine d'après, donc on a mis les annonces temps moyen de réservation de 2 minutes. Donc, c'est énorme. Et on a pu aider 45 personnes à récupérer ces radiateurs-là et à pouvoir se chauffer correctement. Et la semaine d'après, tout était parti. Donc,
mais tu voilà, vois, si c'est... je reprends l'exemple des doubles vitrages, mm-hmm. parce que bon, là, on est sur une erreur de commande. Bon. Si je reprends l'exemple des doubles vitrages, j'ai deux questions, en fait. La première, c'est, quand tu me le dis comme ça, je me dis, pourquoi ils les changent ? Parce que si c'est déjà du double vitrage, tu vois. Donc, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est... ça, c'est ce que ça m'a plutôt évoqué quand tu as parlé d'entreprise de démolition. C'est est-ce qu'il y a aussi de votre part une forme d'accompagnement d'entreprise sur la façon de non plus démolir, mais déconstruire ? Enfin, en tout cas, parce que j'imagine que pour eux, si auparavant, en fait, tout ça allait à la benne, c'est aussi que c'est peut-être plus rapide pour l'entreprise de démolition de tout casser, de mettre dans une benne hyper, hyper vite, plutôt que bien désosser les fenêtres, les mettre de côté pour qu'elles soient encore fonctionnelles. Tu vois, donc en gros, j'ai ces deux questions-là. J'ai comment ça se fait qu'on change les matériaux qui, visiblement, sont encore parfaitement fonctionnels dans des cadres de rénovation ? Et le deuxième, c'est à quel point il y a aussi une transmission de savoir-faire de votre part ou juste en général pour changer la façon dont on démolit, pour passer plus à peut-être la déconstruction, ou en tout cas, je ne sais pas comment dire quel mot on utilisait.
Oui, non, mais c'est ça, c'est de la déconstruction.
Et à effectivement bien faire en s'assurer que les matériaux restent réemployables après déconstruction, en fait.
On appelle ça de la dépose propre.
Dépose propre, ok.
Ouais. Bah alors, en fait, on change les fenêtres parce qu'on doit atteindre des chiffres différents chaque année, tous les 5 ans. On a des normes qui doivent être atteintes pour l'habitat social, pour même les habitations privées, hein, du secteur privé. Effectivement, quand on fait une réhabilitation, une rénovation énergétique, on doit tout changer, pas juste les fenêtres, hein. On peut faire de l'isolation par l'extérieur, donc on va dévêtir la façade, on va commencer à mettre de l'isolant à l'extérieur, peut-être qu'il n'existait pas, ou parce que les constructions sont très anciennes, ou bien parce que bah, il est un peu vétuste, donc on va dévêtir ça et on va mettre de l'isolant neuf. On va mettre du coup, forcément, on va mettre en danger du coup tout ce qui est thermique. En fonction de quand tu dévêtis l'isolation extérieure, en fait, le lien avec la fenêtre et l'isolation est mis à mal, forcément. Et puis, par rapport aux fenêtres, en fait, ils les déposent parce que tu as des changements architecturaux, parfois, et aussi parce que elles ne conviennent plus aux normes exigées aujourd'hui. Sauf que nous, ce qu'on se dit, c'est que vaut mieux des fenêtres double vitrage qui peut-être ne conviennent pas aux chiffres d'aujourd'hui, mais qui conviendraient parfaitement à des gens qui sont en simple vitrage. Tu vois, le raisonnement qu'on a, c'est il y a des gens qui sont en simple vitrage. On a des fenêtres accessibles en double vitrage. Donc, nous, on les prend. Nous, ça ne nous dérange pas qu'elles aient 10 ans, tant qu'elles sont en bon état et qu'elles sont en double vitrage et qu'elles sont tout à fait fonctionnelles.
Mais d'où le fait que vous adressez à des particuliers qui, du coup, n'ont pas les mêmes... là où tu disais il y a de la législation qui change pour des bailleurs sociaux, pour des boîtes qui font de l'immobilier d'entreprise, etc. Finalement, le particulier qui a sa maison, lui, on ne lui impose pas, sauf s'il loue à quelqu'un d'autre peut-être, mais on ne lui impose pas que sa fenêtre elle soit dans la norme je ne sais quoi. Finalement, lui, ce qui va lui importer, c'est de dire je veux des fenêtres qui sont plus isolantes que mes précédentes. Et donc effectivement c'est là où des fenêtres qui ne peuvent pas servir à un autre professionnel du BTP puisque lui il est soumis à des normes d'utiliser des matériaux très récents, en particulier finalement lui ça va lui changer sa vie quoi.
Exactement, mais là on parle des fenêtres mais ça peut être des WC hein. Parfois des WC mis en benne alors qu'on peut les réemployer. Et là, il n'y a pas une question de quoi que ce soit. C'est juste parce qu'ils sont considérés comme étant anciens et qu'il faut les changer. Ça concerne tous les matériaux, pas juste les fenêtres. Mais les fenêtres, oui, clairement, pour un particulier, quand on a une fenêtre simple vitrage, c'est un pont thermique à lui-même, la fenêtre. Enfin, je veux dire, tu peux chauffer la maison tant que tu veux. Si la fenêtre, elle est en simple vitrage, tu as une perte d'énergie énorme. Là, on propose d'économiser des énergies. De l'énergie, de chauffage, et puis on permet à des gens de vivre décemment, en fait, clairement. Parce que même là, hein, dans Paris, moi je suis parisienne, je me balade dans Paris, je vois encore des gens en simple vitrage. Il y a des fenêtres en simple vitrage. Je me dis, mais c'est pas possible. Comment ils font ? Alors, peut-être qu'ils louent pas les appartements, mais s'ils les louent, c'est très compliqué. Enfin, je veux dire, moi, au-delà de tout ça, mon action, elle est aussi sociale. Oui, il y a l'action environnementale, mais il y a une action sociale derrière. Il y a quand même 10 millions de personnes en France qui vivent sous le seuil de pauvreté. Je pense pas qu'ils aient l'argent pour aller changer leurs fenêtres. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est ça, c'est cycle zéro. Et il y a aussi des gens qui sont pas du tout dans le besoin, qui sont sur leur premier achat, trentenaires, quarantenaires, qui sont sur leur premier achat immobilier, qui ont fait un crédit à la banque, mais qui ont plus de sous pour les travaux, qui sont un peu à la gorge. Donc nous, on propose une alternative qui est assez intéressante pour eux.
Pour les professionnels du BTP, du coup, tu disais que tu leur faisais économiser de l'argent, parce qu'en fait... Ce que tu disais, c'est qu'aujourd'hui, en fait, cette mise en déchetterie, elle leur coûte. Mmh. Et donc, vous arrivez à être moins cher pour eux que cette solution de mise à la déchetterie.
Ouais. Oui, clairement, nous, en fait, comme je te disais, on n'a pas de problématique de stockage. On stocke sur le site, en fait. On se met à côté des zones de stockage et on prend un petit bout de terrain et on se met dessus et puis on travaille en flux tendu. Donc, la déchetterie, elle... Elle est beaucoup plus chère que nous. Hein. Elle met en place une benne, il y a le transport à payer, il y a la mise en place de la benne, les rotations de benne. Toutes les semaines, tu as des rotations de benne. Nous, on a juste une personne de chez nous, un optimisateur déchets qui vient, qui fait les enlèvements. Alors, et par rapport à ce que tu disais sur la dépose propre, qui est assez intéressant, c'est que cette fameuse dépose propre, elle est pas inscrite dans tous les marchés, dans tous les appels d'offres. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que dans certains cas, elle n'est pas du tout présente. Donc, elle n'est pas rémunérée, en fait, si tu veux, et par le maître d'ouvrage. Donc, nous, quand on est arrivé au début, c'était oui, mais ça va prendre du temps parce que ça veut dire qu'il faut qu'on dépose proprement, etc. C'était le retour un peu des ouvriers. Bon, et puis, petit à petit... nous, on est sur site, on leur montre les méthodes de dépose. Par exemple, ça nous est arrivé sur un projet où on faisait du réemploi de WC, de toilettes. Et au départ, en fait, on arrivait à récupérer 20% des WC parce qu'ils les cassaient, en fait, lors de la dépose. Et lorsqu'on leur a montré comment déposer, c'est très simple. Hein. C'est pas très compliqué. C'est juste qu'il faut donner la méthode. On leur a montré la méthode. Au bout de 2 semaines, on avait 70% de WC réemployables. Et à la fin, on arrivait à 95% de WC réemployables. Parce qu'en plus de ça, il y a le côté social qui touche vraiment beaucoup les ouvriers.
Oui, ils sont concernés aussi par la mission que vous avez finalement. Comme tu disais, il y a un aspect environnemental, mais il y a aussi un aspect de donner accès à des matériaux de qualité à des gens qui n'auraient pas forcément les moyens de se les payer. S'ils devaient les acheter neufs, en plus à des prix particuliers, quoi.
Ouais, tout à fait, c'est ça. Et puis, ils voient les gens en direct sur le site. Hein. Ils voient, ils ont un retour direct. C'est-à-dire, l'émotion procurée, c'est un bonheur. Hein. Quand tu reçois des particuliers qui viennent récupérer les matériaux, ils sont tellement heureux. Ça communique, en fait. C'est communicatif. Et du coup, les ouvriers qui rechignaient au début, à la fin, ils sont trop contents. Et c'est eux qui organisent pour nous, parfois même, les zones de stockage, alors qu'on leur a rien demandé. Ils sont vraiment géniaux, hein. Par contre. C'est vraiment... ils sont vraiment, du coup, hyper investis, parce qu'ils se disent que c'est pour la bonne cause. Et puis pour les déchetteries, oui, effectivement, on est beaucoup moins cher. Hein. Clairement, nous, on est à 25 euros du mètre cube. Les déchetteries sont à peu près à 45 euros du mètre cube. Et c'est un chiffre qui peut varier, hein, ça peut être beaucoup plus. Puis aujourd'hui, les déchetteries, elles demandent le tri des matériaux sur site. Mais il y a des matériaux qui peuvent pas être, qui ne sont pas triés, clairement. Hein, on va pas se le cacher. C'est pas très bien fait. Il y a personne en fait sur le site pour le faire correctement. Du coup, les entreprises, elles se retrouvent à payer beaucoup plus cher que prévu. Donc, et puis en plus, comme je disais tout à l'heure, nous, on n'a pas de limite de volume de traitement de déchets parce que nous, clairement, on est illimité au niveau de l'application. On fait tous les corps d'État. Donc, puis c'est une question simple de prise de photos et de mise en ligne. Okay, on n'a pas non plus de limite de stockage, etc. Et puis à l'inverse de la déchetterie, on ne fait pas d'incinération, on ne fait pas d'enfouissement. Hein. Donc on a un bilan carbone assez intéressant. Et on n'a pas de coût de transport non plus. Parce que c'est le particulier qui vient au chantier, et pas l'inverse.
Alors, du coup, sur tous ces points-là, je comprends bien le côté sans limite. Par contre, ce que j'entends, c'est que la limite, c'est quand même qu'il y ait un professionnel de chez vous, qui est un membre de l'équipe Cycle Zéro, qui quand même gère finalement chaque chantier, à la fois dès l'étape d'identification des gisements, ensuite sur la mise en ligne, sur l'organisation de la zone de stockage, voire même, tu l'évoquais, une quasi-formation, ou en tout cas un échange avec les ouvriers pour la dépose propre, et ensuite sur la remise aux particuliers. Du coup, comment est-ce que vous fonctionnez? Comment est-ce que vous vous développez, en fait? Quels sont un peu les prérequis, tu vois? Il y a, j'imagine, des prérequis géographiques. Il faut que vous ayez des gens, en fait, dans des différentes zones. À chaque fois, vous voulez ouvrir une nouvelle zone géographique. Est-ce qu'il y a aussi des expertises métiers par typologie de matériaux? Ou est-ce que, pour le coup, non, c'est un seul architecte qui est capable de faire l'ensemble des matériaux disponibles au réemploi sur un chantier?
Alors, nous, en fait, pour nous, c'est essentiel qu'il y ait une personne sur le chantier. En fait, pour moi, travailler sur du réemploi dans le BTP, si t'es pas sur le chantier, mais c'est même pas la peine. Enfin, ta solution, elle fonctionnera jamais. J'ai travaillé sur des chantiers pendant 10 ans et je peux vous dire que même en y étant tous les jours, c'est très compliqué. Il y a des plannings très serrés, des enveloppes financières à respecter. Tout le monde va qu'à sa tâche, tout le monde est très occupé, personne va aller faire du réemploi à votre place. Donc clairement, nous, on propose un service clé en main, c'est-à-dire que on n'ajoute pas du travail à l'entreprise, c'est nous qui prenons en charge ce travail-là. C'est un service qu'on vend, on l'assume, on est des experts, on sait repérer les matériaux de qualité, on est des professionnels du BTP, on est des experts. On est des architectes, en plus de ça, formés au réemploi. Donc le gisement, la matière, tout ça on connaît. Hein. C'est la matière. Sans la matière, on ne construit rien, on ne dessine rien. Donc sans en fait les gisements que nous on récupère, il n'y a rien. Donc il n'y a pas de construction. C'est pour ça que nous on est formés à ça. Et en fait, il faut vraiment vraiment comprendre que c'est un milieu qui est extrêmement compliqué. Si on commence à laisser la main à l'entreprise concernant le réemploi sur le chantier, c'est impossible. Déjà parce que l'entreprise, elle n'a pas le temps, elle n'a pas du tout le personnel pour, elle est déjà très très serrée en termes de budget. En plus de ça, le personnel n'est pas forcément qualifié pour l'accueil, la mise en relation, ces choses-là. Alors, bien sûr qu'elle est extrêmement qualifiée pour tout ce qui est matériaux, mais après, pour la mise en relation, les enlèvements, elle n'a absolument pas le temps de faire ça. Pour la gestion des stocks, de réemploi, etc., elle n'a absolument pas le temps de faire ça. Comme je vous disais, elles ont déjà du mal, les entreprises, à faire le tri sur leur chantier. Donc, elles ne vont pas en plus se rajouter ça sur le dos. Et je pense que oui, on assume totalement notre présence et elle est essentielle. Et je défie quiconque de faire du réemploi sans être présent sur le chantier. C'est impossible. En plus de ça, nous, on veut garder la main sur cette application. En fait, cette application qui sert essentiellement à la mise en relation, hein, en fait, parce que nous, on est une solution hybride. Hein. On a la présence sur site et on a l'application de mise en relation. Et du coup, en fait, garder la main sur cette application permet de sélectionner des matériaux de qualité. Parce que si on laisse la main à l'entreprise, bien sûr qu'il peut y avoir des débordements. Et ça, moi, je ne leur jette pas la pierre. Bien sûr qu'il peut y avoir des photos mal prises, des matériaux pas très, enfin pas en bon état mis en annonce sur l'application. Enfin voilà, il peut y avoir des dérives. En plus, c'est, on va dire même que c'est un conflit d'intérêts parce que eux, plus ils mettent des matériaux sur l'application, moins ils payent de ben. Donc forcément, ça va les attirer. Donc nous, on veut garder la main pour proposer un service aussi cohérent à nos particuliers, à notre communauté. On peut pas proposer tout type de matériaux. On va pas se mettre sur des matériaux dangereux. Voilà, on surtout sur des matériaux par exemple électriques, on fait très attention. On va pas réemployer des tableaux électriques par exemple. Ça c'est des sujets on va pas mettre la main dedans. On va pas réemployer des radiateurs type grille-pain qui sont extrêmement énergivores. Ça on réemploie pas. On fait très attention à ça. On réemploie pas des matériaux cassés, brisés, abîmés. Franchement, il n'y a aucun matériau qui a une rayure, quoi. Ce qu'on propose, c'est des matériaux de qualité. Alors, des fois, il peut y avoir un peu de salissure, hein. On est sur un chantier, il peut y avoir de la poussière, mais ça se lave. C'est pas des choses qui dérangent nos particuliers. Donc, voilà. Et pour le déploiement, enfin, la stratégie de déploiement sur toute la France, écoutez, pour l'instant, nous, ce qu'on a, c'est énormément de candidatures spontanées à travers toute la France. Donc ça, c'est aussi, on s'y attendait pas, et c'est essentiellement des architectes et des professionnels du BTP. Donc là, dans l'expertise, on y est. Et c'est des architectes même parfois beaucoup plus âgés que nous, qui sont en quête de sens et qui sont en reconversion professionnelle, qui trouvent du sens dans ce qu'on se fait, dans ce qu'on fait, et qui ont envie de participer à ce mouvement. Donc ça, c'est à travers toute la France. Maintenant, on a une demande aussi des particuliers qui est nationale. Aujourd'hui, on a 120 000 utilisateurs actifs. Donc, c'est énorme. On a 20 000 personnes qui se connectent tous les jours sur l'application. Alors qu'on n'a pas de matériaux partout en France. Hein. Pour l'instant, on est juste en région Île-de-France. Et en fait, on se développe actuellement en région Hauts-de-France et en région PACA. Donc là-bas, on a eu des chantiers. Donc, en Hauts-de-France, on travaille avec Colas sur plusieurs chantiers. Et en région PACA, ça va être avec Bouygues. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on avait déjà des candidatures spontanées. Donc, on a sollicité les personnes « dormantes », entre guillemets, hein, qui nous avaient contactées. Et on leur fait passer des entretiens, bien sûr. Puis, bien sûr, on les a rencontrées. Et en fait, c'est des personnes à qui on dit « Écoutez, vous êtes architecte, vous avez fait de longues études. Vous êtes professionnel du BTP, vous êtes ingénieur en travaux. Et ben en fait, vous allez passer par l'optimisation déchets. Donc, vous allez faire en fait le poste, on va dire, le plus bas qui existe chez nous, c'est l'optimisateur déchets. Ainsi, vous pourrez vous rendre compte de ce qui se passe sur le terrain. Vous allez mettre un pied sur le chantier. Parce que si vous n'y allez pas, et ça c'est ma base, hein, c'est ma politique, si on va pas sur le chantier, on travaille pas chez nous. Parce que le chantier, ça fait peur. Oui, certes. Le chantier, c'est un monde un peu inconnu. Mais moi, j'adore ça, le chantier. Parce que c'est là où tu apprends vraiment à construire. Hein, c'est bien de dessiner, c'est bien de faire des belles 3D, etc. Mais si t'es pas sur le chantier, tu sais pas comment on réalise un édifice et tu connais pas la matière. Comment la matière est mise avec une autre matière pour finalement faire un mur. C'est tout simple, hein, mais c'est vrai. Et c'est comme ça qu'on apprend à construire, etc. Et donc, tout le monde passe par ce poste d'optimisateur déchets pour ensuite recruter à son tour, devenir responsable région et recruter des optimisateurs déchets à son tour. Vous voyez un peu ? C'est une sorte de petite pyramide qu'on met en place. Donc, à chaque fois, le responsable potentiel région est optimisateur déchets. Et dans le futur, il deviendra responsable et recrutera des optimisateurs déchets. Et il pourra parler à ces optimisateurs déchets. Il pourra leur dire comment faire, comment fonctionner, avec toutes les méthodes qu'on aura bien sûr insufflées au départ. Et à ce moment-là, la démarche sera vraiment appliquée correctement. Et donc, c'est comme ça qu'on veut se développer, c'est en région. Parce qu'on se dit que en fait, chaque habitant connaît son environnement. Moi, je suis parisienne, je connais Paris. Je connais les difficultés d'un chantier parisien. Paris, c'est extrêmement dense. Les zones de stockage, il n'y en a pas. Vraiment. Elles sont souvent extérieures et elles sont souvent très, très petites. Donc, ça va être pour nous un challenge de flux tendu. Donc voilà, ça veut dire qu'il va falloir faire partir les matériaux très vite. Bah, on a la chance d'avoir une très grosse communauté et d'avoir des réservations rapides. Donc ça, c'est notre avantage. Et il va falloir faire partir voilà, très rapidement et en gros. Dans les Hauts-de-France, c'est différent. On a des zones de stockage extrêmement grandes. On a des déposes qui sont faites d'un coup. Donc on peut stocker beaucoup, beaucoup de matériaux. Ben, il n'y a pas longtemps, on a fait partir 400 fenêtres en deux jours. Donc, c'est pas du tout les mêmes approches. J'imagine que dans d'autres régions, il y a différentes, bien sûr, problématiques. Mais moi, je les connais pas, ces problématiques-là. Et je préfère qu'on laisse les gens, en fait, de chaque région dialoguer avec son propre environnement. C'est comme ça qu'on réfléchit. On se dit qu'on ne peut pas envoyer des gens qu'on recrute ici à Paris. Ça n'a pas de sens. Et on veut garder une certaine transversalité dans notre travail. Par exemple, un petit exemple tout bête, hein, on est sur un serveur éthique qui s'appelle Ikula. On travaille localement, on a des équipes au niveau local dans toute la France. On a également le système de géolocalisation qui nous permet ben, la localité. Voilà, c'est très transversal. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions, du coup.
Si, si, au-delà même. En gros, voilà, c'est un impératif pour vous de garder la présence chantier. Ça fait partie, c'est au cœur de votre service.
C'est l'ADN.
Voilà, c'est vraiment l'ADN. Et ensuite, pour la, bah, ça veut tout dire. Ça veut dire que pour vous développer en région, bah, il faut à chaque fois avoir des gens sur place. Et vous faites le choix de prendre des gens qui viennent de la région, justement, en question. Parce qu'il y a des spécificités qui sont ce qu'elles sont et que c'est plus pertinent. Donc c'est très clair, non, c'est très clair. En revanche, par rapport à ma question de spécialisation potentielle sur les différentes matières, ça, non. En gros, la personne que vous recrutez, elle est en mesure de qualifier tous les gisements, qu'on parle de fenêtres, de toilettes, de plafonds, de... Ouais, voilà.
C'est pour ça qu'on prend des professionnels du BTP. On peut pas prendre des personnes, parce qu'on en a eu des personnes qui nous ont sollicité pour rejoindre l'équipe qui n'avaient aucune affinité ni... formation BTP, c'est très compliqué. Mmh. Il faudrait qu'elle se forme, et c'est totalement possible. Il y a des formations qui existent BTP, et nous, on n'est pas fermés hein, à ça. On se dit que tout est possible. Donc, je pense que ça sera possible dans un futur proche. Il faudra juste que ces personnes se forment. Et nous, actuellement, ben, on n'est pas une école, donc on peut pas encore faire ça. Par contre, ce qu'on essaye de faire, c'est aller transmettre dans les écoles d'architecture. On est en lien avec le ministère de la Culture, justement, par rapport à ça, parce qu'on fait beaucoup d'interventions, notamment à la Villette, hein, à l'École nationale d'architecture de Paris-la-Villette. On essaye de parler, en fait, aux professionnels du BTP de demain. On essaye de mettre en place quelque chose qui fait que... D'ailleurs, ils sont très demandeurs. Quelque chose qui fait qu'un édifice a une vie. Et les matériaux sont réutilisables et réemployables. Il faut juste trouver de nouvelles techniques, de nouvelles idées. Là, cycle zéro, c'est une idée, c'est une innovation, parce que ça n'a jamais été fait avant. Mais c'est une idée qui est très simple. Hein. Et donc, je pense que tous les professionnels de demain auront de nouvelles idées. Mais c'est en influant ça dans les écoles, je pense qu'on pourra y arriver. Puis on fait aussi de la formation dans les lycées professionnels de BTP. Sur la dépose propre, sur le diagnostic ressources. On essaye vraiment, vraiment de transmettre ça au maximum pour que demain, on n'ait même plus à parler de dépose propre à des entreprises, elles le feront automatiquement. Mmh. Et voilà. Et du coup, bah, nous, ce qu'on propose, en règle générale, hein, c'est donc un système, du coup, comme je disais, d'optimisation de déchets grâce à notre outil, grâce à l'application. On fait aussi de l'accompagnement hein, aux maîtrises d'ouvrage bah, sur le réemploi. Hein. Clairement, sur l'ensemble du réemploi, les filières qui existent, parce qu'il y en a d'autres aussi. Et on fait aussi des études d'appel d'offres. On fait aussi du diagnostic ressources, comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà, on a un panel assez large sur un socle quand même qui est l'application qui nous permet d'accéder à cette fameuse communauté. Et c'est ça la clé, hein, clairement. La clé hein, de ce réemploi massif qu'on est en train de générer, c'est la masse. Et la masse, ça passe par le nombre. Et le nombre, on l'a trouvé chez le particulier. C'est ça le changement. en réalité.
Pour rentrer un peu dans le détail de cette communauté, c'est pas simple de se faire connaître et de réunir une communauté de particuliers. Comment vous vous êtes fait connaître, comment vous avez réuni ces 120 000 utilisateurs actifs ?
Alors, en fait, à la base, on n'était pas du tout parti sur autant de particuliers d'un coup. On avait créé une espèce de plateforme de préinscription, un site où on parlait du projet Cycle Zéro, où en gros, on proposait de se préinscrire pour accéder à des matériaux, à des gisements en avant-première. Et on est parti déposer cette page de préinscription un peu partout sur les réseaux sociaux, surtout sur les groupes de réemploi ou de gens qui étaient vraiment sensibles à la question écologique. Et comme ça, en fait, on a eu une base de particuliers d'environ 5 000, 6 000, 7 000 personnes. Une base solide, une base de personnes vraiment convaincues. Donc ça, c'est vraiment notre socle. Et en juin dernier, donc ça, c'était il y a plus d'un an, et en juin dernier, on a été sollicité par des médias. On a été sollicité par France 3, qui a voulu faire un reportage sur nous. Et de là, nos chiffres ont explosé. On est passé de 7 000 utilisateurs en une semaine à 120 000. Donc, pas parce qu'on est passé à la télé et que, en fait, d'ailleurs, moi, franchement, je remercie les médias. En fait, on a fait ça sans marketing, sans budget commercial. Sans RP, sans rien du tout. Hein. Clairement, on a eu de la chance. On a eu beaucoup de chance. Et après France 3, on a eu France 2. Ensuite, on a eu TF1, le JT de TF1. Donc, le JT de TF1, ça a fait bugger notre serveur. on était sur les chapeaux de roue. Cette communauté nous a permis de rassurer les entreprises et de convaincre les entreprises de plus en plus de travailler avec nous. Parce qu'ils se sont rendus compte que...
Tu rentres dans un cercle vertueux, en fait.
Exactement.
Une fois que tu as lancé la machine, puis j'imagine que cette communauté, maintenant qu'elle est quand même assez massive, ça marche aussi par bouche à oreille.
Exactement. Ouais, exactement. Moi, des fois, une petite anecdote, là, j'étais dans un café il n'y a pas longtemps, j'entends Cycle Zéro. Oh, il y a des gamins qui ont fait ça. Tu peux récupérer des matériaux de chantier gratuitement. Et là, tu as l'autre qui dit au bar, mais non, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est impossible, qu'est-ce que c'est ? Et tout le monde parlait de ça, et moi, j'étais là. et c'était assez bizarre.
Une petite souris, tu te cachais, t'écoutais.
ouais, j'étais un peu gênée. Et du coup, j'étais trop contente, parce que je me suis dit, dans les cafés, on parle de Cycle Zéro. Au supermarché, on parle de Cycle Zéro. Ça commence à rentrer dans les mœurs, hein, presque, que c'est possible. Hein, le don, ça existe. Et en plus de ça, avec un business model qui fonctionne, c'est assez... C'est assez rare, donc on est très, très contents. Nous, tu sais, on est très engagés. On estime qu'il n'y a pas de justice environnementale sans justice sociale. On sait que les premiers à en pâtir, en fait, de cette catastrophe énergétique et environnementale, ça va être les plus pauvres. Hein. Malheureusement, c'est comme ça. Et du coup, on se dit que coupler un service qui à la fois bénéficie aux gens et à la fois à la planète, c'est génial. En fait, c'est gagnant pour tout le monde. C'est gagnant pour l'entreprise parce qu'elle fait des économies. Puis en plus de ça, qu'on soit clair, l'entreprise, elle améliore son impact environnemental et en passant par la réduction de ses déchets. Et en plus de ça...
Et du budget travaux.
Elle baisse son coût de traitement de déchets. Elle baisse son coût carbone. Puis en termes d'image, elle peut valoriser son action écologique et sociale. Donc, c'est top. Pour la planète, on n'en parle pas. Hein. Clairement, les faits sont là. On fait des économies carbone assez importantes. Et pour les citoyens, c'est vraiment un game changer parce que ils peuvent améliorer la qualité de leur habitat, ils peuvent augmenter leur pouvoir d'achat, ils peuvent, tu vois, par exemple, prendre un ouvrier parce que du coup, ils ont accès aux matériaux gratuitement. Du coup, ils peuvent se permettre de payer un ouvrier. Enfin, voilà. Et en plus de ça, nous, on permet la création de nouveaux métiers. Parce qu'on engage des optimisateurs déchets. C'est un nouveau métier, clairement, qu'on a créé. Et ça permet à plein de gens de trouver du sens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en quête de sens dans leur métier.
Ouais, puis y compris sur le chantier, tu le disais tout à l'heure, enfin que finalement, ça, très concrètement et immédiatement, ça valorise aussi les ouvriers qui travaillent sur le chantier parce que de voir que les matériaux finalement qui sont déposés proprement vont être réutilisés et vont servir à des gens qui en ont besoin, ça les motive eux aussi. Donc, en fait, à tous les niveaux, j'ai le sentiment que c'est bénéfique.
C'est bénéfique pour la société. Mais là, je te parle en tant que Karim Alepsir, et je peux te dire qu'on a besoin de solutions comme ça. Ça fait du bien, ça fait du baume au cœur. Ça fait du bien à notre société, vraiment, parce que ça rend heureux tout le monde. C'est rare, en fait, en général, on choisit une solution, ça profite à certains, ça profite pas à d'autres. Là, ça profite à tout le monde. Donc, nous, on est très contents. Honnêtement, c'est extrêmement valorisant quand t'as des particuliers qui te remercient, que t'as l'impression que t'as changé quelque chose dans leur vie, dans leur esprit. Et en plus de ça, que tu leur as fait faire un éco-geste sans même qu'ils s'en rendent compte, t'as tout gagné. Je pense que je prêche, je suis convaincue, mais...
Ouais, c'est clair. Et du coup, ma question, elle est aussi, du coup, au niveau... Ma dernière question, peut-être, au niveau, du coup, des entreprises du BTP que vous avez à signer, en fait, parce que c'est eux qui vous rémunèrent. Alors, en faisant une économie versus la déchetterie, ça, j'ai bien compris, mais du coup, il y a quand même, à un moment donné, il faut que tu convainques que ça ne va pas leur faire perdre du temps, que ça va être viable, que vous allez réussir à les couler dans les temps, que ça ne va pas les mettre en retard sur leur chantier, enfin, que sais-je. Du coup... tu disais un peu quels étaient les types de clients que vous aviez. Est-ce que tu vois un effet, genre une fois qu'ils en ont fait un, du coup, ils veulent en faire 10 comment ça se passe et quels sont un peu vos projets là, dans les prochains mois ou, disons, parlons de 2024, puisque là, on est le 15 décembre 2023 quand on enregistre.
C'est exactement ça. En fait, on fait un chantier. On va dire que c'est des chantiers de test. Et ensuite, ils nous ouvrent les portes d'autres chantiers. C'est exactement comme ça que ça se passe. Avec la RIVP, c'est exactement ce qui s'est passé. On a fait un chantier test. Derrière, ils nous ont mis sur l'ensemble de leur chantier. La RIVP, c'est quand même plus de 200 chantiers par an, donc parisiens. Donc, c'est assez conséquent. Là, on va en faire 40 en 2024.
La RIVP, tu peux me redire ce que c'est comme...
C'est un bailleur social.
D'accord.
Voilà. On en a fait 5 avec eux cette année. 2024, on en fait 40. On a travaillé aussi avec Pleine Commune comment je pourrais te décrire quel est leur tu vois ce que c'est?
Pas du tout. Je te dis sincèrement, pas du tout.
En fait, ça regroupe en fait plusieurs villes: Aubervilliers, Pénis-sur-Seine, l'île Saint-Denis, la Courneuve. En fait, c'est toute
c'est une communauté d'agglomération du Nord 92.
Tout à fait. En Île-de-France, essentiellement. Et en gros, on a travaillé avec eux sur... on est sur un chantier qui est encore en cours. Et derrière, on va être sur 10 chantiers en 2024. C'est un peu comme ça que ça se passe. Et pour les entreprises, parce que là, je te parlais des maîtrises d'ouvrage, mais pour les entreprises, c'est le même système. Par exemple, Fayette, on a fait 2 chantiers avec eux. En 2024, on en a 2 déjà à venir. Avec Bouygues, on en a fait 1, on en a 3 à venir. Et ainsi de suite. Okay. Et Vinci, c'est pareil. Et Léon Gross, c'est pareil. En fait, dès qu'on fait un chantier, derrière, on est engagé sur plusieurs autres chantiers. Et en plus de ça, à travers toute la France. Donc ça, c'est hyper intéressant pour nous.
Très bien. Donc, vous avez un énorme besoin de recrutement et de formation, là.
En fait, l'enjeu, c'est ça, clairement. Parce que l'enjeu, c'est clairement ça en ce moment. On est en pleine levée de fonds. Okay. Donc là, on a démarré notre autre show. On discute avec des fonds. Plusieurs fonds parce que en fait l'idée c'est quand même de réaliser beaucoup de chantiers à 5 ans. Nos objectifs c'est quand même 7144 chantiers en France, plus de 200 emplois positifs créés, avoir réemployé 1 million de tonnes de déchets. Donc c'est quand même des beaux objectifs. On est très ambitieux. On est en cours de signature de contrat cadre avec certaines entreprises du BTP. Et on est en partenariat avec Valobat, qui est un éco-organisme du secteur de la construction. Donc là, clairement, pour répondre en fait à cette demande de particuliers qui est vraiment énorme, on a besoin On a besoin d'un petit coup de pouce financier. En plus de ça, on nous propose des chantiers à Bordeaux, on nous propose des chantiers partout en France. Mais du coup, bah, il faut qu'on fasse du recrutement. On peut pas y aller si on n'a pas de personnes à disposition, qu'on n'a pas formé, qu'on n'a pas eu plusieurs échanges, etc. Donc, ouais, effectivement, là, le petit frein qu'on a en ce moment, c'est ça. C'est le coup de boost à mettre pour répondre à la demande. Parce que sinon, ça va être très lent. Et nous, on n'a pas envie que ça soit lent. On veut vraiment répondre à nos particuliers parce que nous reçoit des mails tous les jours de gens qui nous disent « Mais vous arrivez quand ? Vous arrivez quand ? Vous arrivez quand chez nous ?» Nous, on veut arriver. C'est juste que pour l'instant, on n'a pas encore les fonds nécessaires pour pouvoir faire du recrutement massif et répondre à toutes les entreprises qui nous sollicitent à travers toute la France. Mais si on pouvait répondre, on serait déjà très avancé. On a refusé pas mal de chantiers au départ parce qu'on n'avait pas les effectifs. Maintenant, on sait qu'on peut les avoir, les effectifs. On sait qu'on peut répondre à ces chantiers. Mais il nous faut un peu d'aide, un peu de carburant. Et du coup, c'est pour ça qu'on fait une levée de fonds.
Bon, écoute, avec tout ce que tu nous as dit sur l'attraction naturelle, que ce soit côté particulier ou côté entreprise, je pense que ce sera... en tout cas, j'espère vraiment sincèrement que ça va fonctionner et que vous allez pouvoir vous développer rapidement.
Merci.
Parce que voilà, c'est un sujet, ça fait partie des nombreux sujets qu'on ne connaît pas, je trouve, en tant que particulier, en termes de là où il y a énormément de gaspillage et finalement là où il y a les grosses zones d'amélioration en termes d'impact carbone. Voilà, je reviens, je reprends la casquette plus voilà, ce côté économie circulaire et réemploi. Et c'est vrai que bah, voilà, on a besoin d'initiatives comme la vôtre, intelligentes, qui bénéficient à tout le monde, mais effectivement qui ont besoin d'un petit coup de pouce, comme tu disais, pour se développer. Donc, j'espère ouais. Sincèrement que vous allez pouvoir closer cette levée de fonds rapidement et vous déployer partout très rapidement.
Bah, merci beaucoup de ton soutien, c'est super. Et puis oui, comme tu disais, c'est un secteur qui est très, très, très polluant. C'est 69% des déchets en France, il ne faut pas l'oublier. C'est 224 millions de tonnes de déchets par an et c'est 5 fois plus que les déchets ménagers. Donc, il y a de quoi faire.
C'est clair. C'est clair. Et surtout, et en plus, des déchets pour beaucoup non recyclables, juste enfouis.
Bah, le recyclage, ça existe, mais pas pour toutes les filières. Pas pour tous les types de matériaux. Et le recyclage, c'est bien, mais c'est mieux que l'enfouissement et c'est mieux que l'incinération, mais c'est pas mieux que le réemploi parce que le réemploi, c'est beaucoup moins énergivore.
Ah, c'est sûr. Non, mais ça, tu prêches de convaincu.
Donc, je pense qu'il faut les deux. Et il faut vraiment développer le réemploi en France parce que c'est quand même quelque chose que je pense... et nous, on ne se considère pas comme avant-gardiste. Hein. Mes maîtres, c'est Bellastock, c'est des gens qui m'ont inspiré, hein, c'est Rotor. Voilà, donc ils ont insufflé quelque chose qui a créé notre génération à nous. Et je pense que vraiment, il faut vraiment que la France, en tout cas à l'échelle gouvernementale, s'approprie ce sujet parce que il faut vivre avec son temps. Il faut pas répondre à la problématique une fois que c'est trop tard. Là, il y a des solutions qui existent. On peut agir. C'est le moment de le faire. Il faut pas attendre parce qu'après, ça sera trop tard. Et en fait, on sera à la traîne par rapport à d'autres pays qui, eux, sont déjà vachement en avance par rapport au réemploi.
Comme quel type de pays, par exemple ?
Bah, par exemple, dans le nord hein, de l'Europe, un pays comme le Danemark ou la Suède, ils ont déjà des initiatives de réemploi qui fonctionnent très bien, qui sont appréciées, qui sont intégrées en fait hein, dans le monde de la construction. Nous, c'est encore un peu plus délicat, mais je pense que là, de plus en plus, en fait, ça va entrer dans les mœurs de plus en plus. Mais peut-être qu'il n'y avait pas la solution magique jusqu'à présent. Peut-être que cycle zéro, ça changera les choses. Mais je pense vraiment que la solution, elle vient de là. Elle va venir de là. Elle va venir du réemploi parce que pour se débarrasser de 69% de déchets, quand même, c'est assez costaud. Et surtout, en fait, il faut une solution qui permet de réemployer, mais massivement. Mmh. Et c'est pour ça, nous, qu'on a misé sur un outil qui est téléchargeable dans le monde entier, qui n'a pas de limite, en fait, de géographie, etc. Et qu'on préfère prendre des gens par région parce qu'on se dit que à ce moment-là, ça ira beaucoup plus vite. Les gens connaissent leur terrain et ça crée de l'emploi, ça crée, ça développe des régions. C'est hyper intéressant. Nous, par exemple, on a eu des sollicitations, je te cache pas, du Canada, de la Belgique. Enfin, ça vient de partout dans le monde, hein. Même du Brésil, des gens qui veulent développer la solution là-bas, qui veulent travailler avec nous pour développer la solution là-bas. Nous, ce qu'on veut au départ, c'est quand même remplir nos engagements en France, puis pourquoi pas après partir à l'international. Mais ouais, par exemple, le Canada, le Québec, ils sont vachement sur la question du réemploi.
C'est un sujet, je pense, en fait, clé pour toutes les économies à développer comme la nôtre qui produisent du déchet à tire-larigot.
La France, c'est quand même ouais. Le numéro 1. Ils sont phares. Hein. Dans le BTP hein, seulement. Non, le BTP, la France, ils sont très forts. Mais du coup, c'est un challenge. Moi, j'adore les challenges et je pense que c'est de la difficulté ou de la problématique que naissent les plus belles idées.
Donc, ah, écoute, c'est une belle phrase pour conclure cet échange. Je vais quand même si tu as déjà cité deux mentors à l'instant, anticipant ma dernière question, je vais quand même te la poser, voir s'il y a d'autres inspirations que tu as envie de nous citer. J'aime bien poser en fin d'entretien cette question qui est est-ce que tu as un livre, un podcast ou une personnalité, ou un entrepreneur, ou un architecte, enfin bref, un mentor qui t'inspire. Ça peut être, si c'est un livre, ça peut être une fiction, c'est pas obligé d'être un livre de management magique, même pour les podcasts, mais c'est, voilà, c'est une question plus d'ouverture pour nous inspirer.
Alors, bon, j'avais pas pensé à un architecte, mais maintenant que tu me le dis, Patrick Bouchain, c'est quand même un architecte qui m'a inspirée. Parce que lui, il est vachement sur le réemploi et il est un peu précurseur dans le domaine de l'architecture, de construction en matière de réemployer. Mais après, j'ai aussi envie de vous envoyer vers un autre podcast qui, moi, m'a beaucoup parlé et aussi parce que c'est un journaliste qui m'a donné ma chance. Un des premiers hein, qui a été intéressé par ce que je disais, qui m'a laissé m'exprimer. C'est un podcast qui s'appelle L'Info Durable.
Ouais.
Et voilà, c'est Valère Coréarc, du coup, qui a créé ce podcast, qui est sympa, qui parle de développement durable, de plein de solutions hyper innovantes et de plein de côtés positifs de ce monde. Voilà.
Ouais, je connais, il avait échangé... Il avait fait un sujet sur Cazou, sur France Bleu, parce qu'il intervient aussi sur France Bleu.
C'est cool, donc, parce qu'il donne la chance quand même d'exposer nos solutions à pas mal de monde. Il donne beaucoup de crédibilité à ce qu'on fait et je trouve ça bien.
Ouais, c'est clair. Bon, bah écoute, merci beaucoup Karima pour toutes ces explications hyper approfondies et très claires. Enfin, en tout cas, moi j'ai trouvé ça très clair. J'espère que tout le monde a bien... apprécier le sujet qui peut paraître de prime abord un peu aride, mais qui en fait quand on rentre dans le détail on se projette tous dedans, parce que je pense qu'on a tous un chez soi, on a tous de près ou de loin soit connu, soit connu des proches qui ont fait des gros travaux, donc on voit tout de suite les déchets que ça peut générer et le prix des matériaux qui s'ajoutent, voilà, donc je trouve que c'est un sujet qui parle à tout le monde au final. Donc, merci pour ça. Et puis, bah, je vous souhaite vraiment le meilleur pour 2024. Et
merci.
Je vous souhaite dans un an de nous reparler et que tu nous dises à quel point vous avez décollé, à quel point vous avez ouvert toutes les villes de France.
Ah, c'est super gentil. Ouais. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci à toi pour ce que tu fais, parce que c'est essentiel. Et puis, je trouve que tu es vachement ouverte sur tous les autres domaines, parce que toi, je sais que tu es aussi une convaincue. Et que tu travailles sur l'allocation, notamment de matériel d'électroménager. Et moi, c'est un plaisir de voir cette solidarité comme ça, d'acteurs engagés. Et c'est super.
Bah, écoute, merci. Et puis, à très bientôt. Et joyeux fête à toi.
Merci, toi aussi.
Ciao.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous aimez ce podcast, si vous avez envie que plein de gens entendent parler de toutes ces initiatives canons, vous avez le pouvoir de nous aider. Vous pouvez partager l'épisode à des amis, vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, nous laisser une note 5 étoiles ou même un commentaire. Enfin, si vous avez des suggestions d'invités, n'hésitez surtout pas à nous écrire sur les réseaux, on adore ça. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.